Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Russell est génial. Je l'ai rencontré à Bali où il s'est installé pour développer son projet EcoBricks. Le principe est simple. Partant du constat que les déchets sont partout, surtout les plastiques, Russell a réfléchi à un moyen de rendre ce déchet utile. Son histoire commence par une histoire d'amour qui se finit mal. S'ensuit une remise en question et c'est là que Russell a eu cette idée simple et incroyable. Valoriser le plastique et en faire des EcoBricks. Assis sur l'escalier d'une école, entouré par des bouteilles plastiques, Russell me raconte son histoire et son projet génial qui prend de plus en plus d'ampleur.
Bien, actuellement, c'est une histoire qui commence là en France, dans Paris, dans le 19e arrondissement. Je vivais là avec ma blonde, une Hollandaise, et on avait une vie formidable. J'étais artiste, un peintre, toutes les choses allaient très bien. J'étais super en amour d'elle. Et on avait l'invitation de sa père à aller à les Philippines pour une petite vacance. D'abord, moi, j'ai parti avec elle et j'avais hâte de rencontrer ses parents. Et peut-être, bien sûr, j'étais sûr que notre relation, l'amour, va augmenter. Notre vacances a allé, OK, pas aussi bien peut-être que je pensais. Et j'ai décidé que je restais un plus longtemps dans les Philippines pour faire un petit peu d'art. Elle retournait à France. Et c'est là qu'elle a décidé de jamais me parler encore.
Une histoire d'amour qui se termine d'une manière un peu improbable. Mais ok, donc tu étais à Paris, Ménilmontant. Mais avant d'arriver à Paris, pourquoi t'es venu à Paris? Pourquoi t'es venu en France?
Pour faire mon art, pour faire mon peinture, de continuer comme artiste professionnel. Et ça m'a rendu à Paris, sans doute, une cité de culture et d'art. Et ça, c'est aussi ce qui m'a amené aux Philippines. Et qu'est-ce qui m'a passé? Bien, mon cœur était quebré, était crevé, mon cœur. Et toute mon vie a collapsé autour de moi. D'abord, j'ai perdu tous mes sous. Je ne pourrais pas renouveler mon visa.
Est-ce qu'elle est partie avec tes sous aussi?
Non, elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas fait ça. C'était juste quand ton cœur est vraiment brisé, tu ne peux pas s'occuper de les choses, la vie très bien. Et c'était mon position. D'abord, j'étais dans un petit village dans le nord des Philippines quand tout ça passait. Et dans le nord des Philippines, c'est très isolé. C'est dans les montagnes. C'est 17 heures de Manille. Et là, je ne pouvais pas trouver des toiles pour peinturer. Je ne pouvais pas trouver des peintures pour faire mon art, pour faire l'argent. Toutes mes commissions évaporaient. Et là, j'étais dans un petit village et je ne pourrais pas sortir. Je ne pourrais pas retourner. j'étais là pour 4 ans et demi.
Mais tu savais déjà en partant aux Philippines que tu allais rester aussi longtemps ou est-ce que c'est sur place que tu as décidé de rester? Une fois que ton cœur était cassé, tu t'es dit « bah non, je vais rester là et je vais essayer de faire des projets ici ».
Non, j'avais un visa de 3 semaines. Et après une année, mon passeport a expiré. Je vraiment pouvais pas sortir. Je voulais tellement sortir et je voulais retourner à mon peinture et mon art, mais je ne pourrais pas. Je ne pouvais pas.
Tu ne pouvais pas parce que ton passeport n'était plus... Tu étais aux Philippines sans passeport, là?
Exactement. Yeah. Yeah. Je ne pouvais pas sortir. Je vraiment voulais et je ne pouvais pas. Et je voulais continuer avec mon art comme artiste. Je suis très créatif et j'aime faire des choses. Et je ne pouvais pas. D'abord, il n'y avait pas de peinture, pas de toile, mais il y avait beaucoup de déchets, beaucoup de plastique. Partout dans le village où je vivais et moi aussi dans ma maison. Je consommais des produits qui étaient emballés dans le plastique. Et qu'est-ce qui passait avec ça? Je le mettais dans la poubelle, mes voisins le ramassaient et où ça allait exactement? Après un bout de temps, j'ai découvert que mes voisins portaient mon plastique à la rivière, le brûlaient et laissaient l'eau l'emporter. Et c'était un village tellement beau, avec des rizières, tout vert. Les enfants jouent dans la rivière, les poissons, on les mange. Et là, mon plastique allait. Et d'abord, moi, j'étais confronté par la réalité que il n'y avait aucun endroit pour mes plastiques aller, sauf que la biosphère, l'écologique autour de moi. Et ça aussi a crevé mon cœur. Et j'ai pensé, waouh, je dois faire quelque chose de mes plastiques, de mon consommation. D'abord, j'ai écouté, il y avait des idées. Il y a une idée où on met le sable dans les bouteilles pour faire des constructions. Et j'ai essayé ça pour un projet à ma maison. Le sable qu'on sortait de la rivière était juste proche de la pile de déchets plastiques qu'on brûlait. D'abord, on commençait aussi à mettre les déchets plastiques là-dedans. Et ça marchait aussi bien que le sable pour faire des briques. D'abord, on mettait plus de plastique et plus de plastique jusqu'au point qu'on mettait juste le plastique dans les briques. Et waouh, le plastique disparaît. On avait un brique qu'on pourrait faire des constructions avec, des petits bancs à mon maison, des murs. Et waouh, fantastique. D'abord, yeah.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc là, c'est le concept, tu parles de briques, donc éco-briques, mais c'est donc des bouteilles en plastique que tu récupérais. Mmh. Et plutôt que de les brûler, c'était de les utiliser pour pouvoir les remplir, non pas de sable, mais de déchets, donc de déchets plastiques. Et donc, tu t'es mis comme ça à remplir tes bouteilles avec des emballages de shampoing individuel, de sacs plastiques, de tout ce que tu pouvais trouver. Et ça a donné une bouteille finalement solide que tu appelais l'éco-brique, c'est ça?
C'est ça. On utilise un morceau de bois ou un morceau de bambou pour le paquer très, très fort. D'abord, tu peux remplir une bouteille de Coca-Cola, par exemple, dans les Philippines, de 1,5 litre avec un moitié kilogramme de plastique. Maintenant, tu vois qu'est-ce que je dis? Je dis pas déchets maintenant, je dis plastique. Parce que à ce point-là, on commence à changer notre perspective. C'est pas quelque chose qui n'est pas utile, qui est un déchet, c'est juste le plastique. Et c'est maintenant utile. On peut faire des briques, on peut faire des jardins, des maisons avec ça. Et waouh, on a une solution.
Ça fait penser à cette fameuse règle des 3 R, réduire, recycler et réutiliser.
Yeah. Bien, de manière, ça transcends that. Ça transcende, c'est un mot en français, ça?
Transcend.
Ça transcende les 3 R. Là, dans cette partie de la Philippine, la culture indigène n'a pas été colonisée. C'est une des seules places dans le monde où tu as une très forte culture indigène. Et moi, comme une personne blanche qui était... Je fallais vivre là, je ne pourrais pas sortir. Petit à petit, mes values blancs, western, étaient affectées. Et je commençais à vraiment voir la connaissance, the wisdom, the indigenous wisdom, the ways and the principles of the people there, qui sont très sains. Les valeurs et les principes indigènes, là, sont encore en pratique. Et moi, j'ai appris beaucoup. Et une de ces pratiques, c'est de penser dans les cercles, de ne pas juste consommer et jeter les choses, mais dans leur culture et dans leur vie quotidienne, tout se recycle.
Mais ça, c'est parce qu'avant l'arrivée des produits manufacturés, dans les peuples, souvent les montagnes ou éloignées, tout ce qu'ils consomment est organique. Donc, ne se pose pas la question du déchet, puisque ce qu'on va consommer, et qu'on va jeter, va se décomposer, se composter d'une manière organique.
Le langage, là, s'appelle Kankanae. Et dans le langage, La langue, là, s'appelle Kankanae. Et dans la langue, il n'y a aucun mot pour les déchets, il n'y a aucun mot pour pollution, il n'y a aucun mot pour quelque chose toxique. Ça n'existe pas. Toute la conscience était dans les cercles d'usage et réusage. D'abord, tu manges quelque chose, tu le donnes aux cochons. Les cochons font du caca, et ça, le caca, on l'utilise pour le jardin, et ça, on fait des choses pour manger. D'abord, c'est encore un système complètement sain que nous, les personnes western, que moi, j'avais beaucoup à apprendre d'eux. D'abord, les éco-briques qu'on faisait, des choses très intéressantes de ça, ça utilise les propriétés de la plastique d'être éternel. Le plastique, si on le garde le soleil, c'est éternel. Et ça peut être une chose très mal si ça se rend dans la biosphère, mais on peut l'utiliser pour des choses qui sont, qu'on use une fois, une autre fois, une autre application, et pour le réutiliser dans un cercle.
Avant de développer le concept des éco-briques, parce que là on est dans une école avec plein de bouteilles remplies autour de nous, j'ai comme envie de mieux comprendre ta vie aux Philippines, parce que tu es resté 4 ans et demi là-bas, parce que tu n'avais plus de passeport pour sortir du pays. Comment c'est possible?
Bien, c'est possible, ça m'a passé, je te jure, je voudrais vraiment, vraiment sortir. Et bien, les frais pour mon visa, parce que j'étais illégal là-bas.
Donc tu as fait overstay, en fait, tu es resté plus que la durée prévue sur ton visa.
Oui, à la fin, c'était comme 10 000 dollars de overstay, de fees d'overstay.
Combien? Et
10 000 américains d'abord. C'était pas mal, beaucoup. Et comme je n'avais pas de manière de faire d'argent, j'étais dans une situation où les frais augmentaient, et je n'avais pas de manière à les payer.
Alors, tu te cachais ou tu avais peut-être peur de... Parce qu'on pouvait très bien contrôler ton passeport et se rendre compte que tu étais illégal aux Philippines.
Tu dois entendre que là, dans le nord des Philippines, c'est tellement isolé. Les villages sont tellement séparés de la gouvernement philippine que c'est comme un autre monde. D'abord, vraiment... Il y a le gouvernement, mais les personnes sont beaucoup plus concernées de leur communauté propre et de leur culture que le grand système gouvernemental. D'abord, vraiment pas de problème.
Comment t'es arrivé là-bas, aussi loin?
C'était une vacance de 3 semaines. Je voulais juste voir un petit peu de paysage, de rencontrer la culture dans le nord. Et ça, c'est quand mon vie a commencé à s'emballer, de fall apart. Yeah.
Et ça a duré 4 ans et demi, 3 semaines. De 3 semaines, tu as étendu ton séjour à 4 ans et demi. Quoi.
C'est ça. C'est ça.
Donc, tu as pris le temps d'apprendre la langue aussi, tu as pris le temps de comprendre la culture, de comprendre les peuples, le village dans lequel tu habitais.
Yeah, bien sûr, bien sûr. Yeah. 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 La langue est fascinante, c'est une langue très petite qui s'appelle Konkanai. Et c'est pas juste une langue, mais c'est une manière de voir le monde qui est encapsulée dans la langue elle-même. D'abord, les choses qui ne sont pas dans la langue sont peut-être plus significantes que les choses qui sont dans la langue. D'abord, pas de mots pour les déchets, pas de mots pour le concept de la pollution. C'est juste une autre manière de voir. Et on doit nous se demander, qu'est-ce qui vient premier? Le pansement de les déchets ou les déchets? Tu me comprends? D'abord, peut-être c'est nous qui avons l'idée des choses inutiles, de les déchets, de la pollution, et d'avoir ce concept dans notre culture, ça crée le problème. Et eux, ils n'ont pas de problème avec ça. Ils n'avaient pas de problème. Ils ont un problème maintenant, parce que, bien, ça vient, les nourritures manufacturées, les plastiques, la consommation, ça commence à arriver dans leur village, et ça devient un problème.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Et donc, tout le monde s'est mis à récupérer les bouteilles en plastique vides et à les remplir de tous les déchets qui traînaient dans les rues du village.
Pas exactement. Ils se ramassaient de le chemin, oui, mais avant que ça, ils se gardaient dans leur maison. Et pour moi, c'était très intéressant à voir, parce qu'il y a beaucoup d'NGO qui essaient de dire à les personnes de ségréguer leurs déchets. Et ça marche pour un couple de mois, et ils arrêtent et retournent à mélanger tout. Mais là, les parents vraiment commençaient à ségréguer leurs déchets plastiques, le plastique de la biologique, parce que c'était leur enfant qui fallait faire les eco-bricks. Ils ne voulaient pas que c'était tout sale, les déchets. D'abord, ils le faisaient pour leurs enfants. Ils commençaient à voir des ségrégations partout dans le village. Et c'était, wow, encore une autre conséquence super intéressante de ça. Là, un de les superintendants, one of the superintendents of the area, of the province, elle a décidé que, wow, on va appliquer ça à toutes les écoles dans la zone de Elle a décidé qu'on va appliquer ça à toutes les écoles dans la zone d'éducation là. 270 écoles.
Où les enfants ont eu comme devoir donc d'aller récupérer les plastiques et en faire des éco-briques.
C'est ça. On a fait un petit guide, un petit livret, qu'on a fait des 300 photocopies. On a donné ça à beaucoup de principales et de professeurs. Et toutes les 300 écoles ont commencé. Un peu plus tard, tous les reports de les écoles ont venu et c'était un grand succès. C'était toutes les bonnes choses, de les conséquences de faire ça. Des villages plus propres. Et on voyait aussi quelque chose de très intéressant. La connaissance, conscience de les élèves et de les parents commençait à augmenter. On avait un petit problème. Les élèves, quand ils n'avaient pas plus... C'était tellement un succès que les élèves disaient à leurs parents, « Maman, papa, je dois faire mon devoir. Est-ce que tu peux, s'il vous plaît, m'acheter un peu de Coca-Cola pour que je puisse avoir une bouteille à faire mon break? » Et qu'est-ce que les parents disaient? C'est « Non, 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 bien, on ne peut pas consommer tant de Coca-Cola parce que ce n'est pas bon pour nous. » Et ils parlaient des professeurs. Et qu'est-ce qui passait? On avait des discussions sur ça. On a des discussions sur le problème de les plastiques et aussi sur la consommation de la Coca-Cola, les soft drinks, junk food. Et avec ça, les personnes prenaient conscience qu'il y a une connexion et ce n'est pas si bon. Et la consommation de ces choses commençait à abaisser. D'abord, les directeurs régionaux toute la zone d'éducation, il y a 19 zones d'éducation dans les Philippines. Elle était en charge de deux de ces zones. D'abord, beaucoup d'élèves et beaucoup d'écoles. Elle a décidé d'appliquer ça à toutes les écoles dans cette zone. Quand j'ai parti finalement des Philippines, il y avait 8000 écoles, un quart d'un milliard d'étudiants qui faisaient des éco-briques.
Donc l'éco-brique, là, tu as un mur derrière toi avec plein de bouteilles. Donc c'est quoi le concept? C'est de remplir des bouteilles de plastique et après coller les bouteilles entre elles pour en faire une brique.
On a toute notre matière de qu'est-ce que tu peux faire avec les éco-briques online maintenant. C'est tout open source. C'est toutes des personnes qui essaient ça autour du monde, qui contribuent à faire maintenant un bouclet, un livret qui décrit les différentes manières qu'on peut faire de construction avec les EcoBricks. Et c'est gratuit sur ecobricks.org. Tu peux faire avec du ciment. Le ciment, ce n'est pas très bon, mais meilleur avec du clay, cob, adobe. On peut aussi utiliser le silicone. D'abord, ici, on a des modules et des sièges qui sont collés entre eux avec du silicone sealant. La même chose qu'on utilise pour faire les fenêtres. C'est pas cher. Tu peux le trouver n'importe location dans le monde.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Qu'est-ce qui fait que tu as quitté les Philippines pour venir? Parce que là, aujourd'hui, je te rencontre à Bali, dans la ville de Ubud. Qu'est-ce qui s'est passé après 4 ans et demi? Tu as réussi finalement à régler ton problème de papier, de passeport? Comment tu as pu quitter le pays? Et pourquoi tu es venu ici?
Bien, laissez-moi te conter plus de l'histoire. D'abord, après 4 ans, mon famille me manquait vraiment. Et mon sœur était à se marier. Et elle voulait vraiment, vraiment que j'arrive pour le mariage en Canada. D'abord, j'avais 6 mois de prévu pour arranger mes choses. J'ai eu du succès à régler mon passeport. J'ai eu mon billet d'avion. J'ai allé à l'aéroport pour partir, pour voir mon sœur. Ma sœur, et là, j'ai découvert que j'avais les 10 000 $ à payer pour les visas. et j'étais pas.
Ah, donc, les 10 000 visas, donc le overstay, le fait d'être resté plus longtemps, tu ne savais pas avant d'arriver à l'aéroport.
Je pensais avec mon nouvel passeport que je pourrais juste passer l'immigration sans problème. Mais il y avait un grand problème, je ne pouvais pas sortir. J'avais une semaine jusqu'à le mariage de ma sœur. D'abord, à ce point-là, les EcoBricks ont passé très haut dans le système des Philippines. Dans le système d'éducation, ça a passé les superintendents jusqu'à le secrétaire de l'éducation Il savait de ce que je faisais, il m'a rencontré, il est venu dans les montagnes pour voir notre projet, pour faire ce qu'on construisait. J'ai demandé, s'il vous plaît, est-ce que tu peux faire une petite carte pour moi pour décrire et pour demander à le consul d'immigration de, s'il vous plaît, laissez-moi sortir de le pays. D'abord, j'avais des lettres très beaux qui étaient écrites pour moi de ces personnes, des politiciens, des l'abbé, des superintendents, des professeurs. Ils ont tous envoyé des lettres à lui.
Pour te laisser sortir sans avoir à payer cette taxe que tu ne pouvais pas payer.
Ah, c'est ça, c'est ça. D'abord, les lettres ont arrivé et j'ai eu une lettre de le consul canadien et avec tout ça, à la dernière moment, comme juste à la dernière moment, ils m'ont laissé sortir. Ils ont dit, OK, tu ne dois pas payer les taxes maintenant, tu peux les payer plus tard si tu veux revenir, mais tu peux sortir. Et ça a passé juste à la dernière moment. D'abord, j'ai eu, parce que la bureaucratie, normalement, ça prend des mois pour faire ce type de choses, mais avec les lettres que j'avais et l'appui de mes amis, j'ai sorti sur le dernier avion possible pour arriver à le mariage de ma sœur. J'ai arrivé à minuit, la journée avant le mariage.
Et tu as pu quitter les Philippines 4 ans et demi plus tard.
C'est ça, c'est ça.
En laissant derrière toi tout un projet qui aujourd'hui continue d'exister, donc ce projet des éco-briques hein, qui continue de vivre sans toi, où les enfants continuent de remplir les bouteilles plastiques avec du plastique pour construire des jardins, des modules, des chaises, des tables.
C'est ça, c'est ça. Il y a des milliards de personnes qui font des éco-briques maintenant comme solution pour leurs déchets personnels.
Mais donc c'est quelque chose qui est connu, ton initiative maintenant aux Philippines. Si on y va en vacances, on a des chances de trouver des éco-briques.
C'est ça, bien, surtout dans le Nord. Si tu vas dans le Nord, tu peux voir. Parce que ça, c'est, je pense, la partie du monde où c'est la plus avancée, où c'est vraiment partie de la vie quotidienne. Si tu as des déchets, tu les mets dans une bouteille plastique, tu ne les brûles pas. Ah, ça continue, sans doute, mais c'est qu'est-ce que tu fais? Tu ne les jettes pas, tu les mets dans la bouteille.
Tu rentres au Canada après 4 ans et demi de Philippines. Tu as réussi finalement à régler ton problème de passeport qui était périmé. Tu as réussi à sortir sans payer la taxe de, je ne sais pas comment on dit en français, overstay. Donc quand on reste plus longtemps que ce que notre visa ne le permet. Donc toi, tu es resté 4 ans de plus que prévu. Tu arrives au mariage de ta sœur. Mais là, je te rencontre à Bali. Donc qu'est-ce qui s'est passé après?
Je voulais vraiment, vraiment retourner à les Philippines pour continuer le projet. D'abord, le secrétaire d'éducation, il voulait que je retourne pour qu'on puisse l'appliquer officiellement, faire des conférences et pour la dissémination dans les autres zones d'EPED. Mais c'était encore un problème. D'abord, j'ai venu ici à Bali parce que c'était proche et aussi parce qu'il y a un grand problème de déchets et de plastique ici en Bali aussi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Est-ce que c'est possible de créer un modèle économique autour de l'éco-brique? Est-ce que c'est possible de générer aussi une ressource financière pour les familles qui se mettent à remplir les bouteilles de plastique?
C'est possible. Ça a passé dans les Philippines où il y avait une valeur attribuée à les éco-briques à un moment de temps. Quand c'est tellement universel et des personnes veulent faire un projet propre de leur maison, ils doivent aller à l'école ou à les personnes acheter les briques. Et d'abord, il y a un prix qui se développe organiquement dans les communautés. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est beaucoup plus puissant que le pouvoir économique, c'est actuellement le pouvoir de les personnes qui veulent faire quelque chose pour leur communauté et pour l'environnement. Toujours des personnes me demandent ça, Alex. Ils me demandent, OK, on peut les acheter, on peut acheter des éco-briques, mais ça marche tellement meilleur quand c'est juste la volonté de les personnes pour faire quelque chose pour leur environnement. Question.
Je vais revenir à toi, c'est vraiment intéressant parce que finalement dans ton présent, dans ta vie, tu fais ce qui t'anime, tu es motivé par cette passion de créer des éco-briques, de réduire le déchet plastique, de donner du sens finalement à ta vie, à tes actions. C'est un travail, c'est ton travail dans cette vie, c'est de vraiment bosser là-dessus au quotidien. Tu dépenses une énergie incroyable pour faire de la sensibilisation, aller dans les écoles, essayer de faire bouger les choses, réduire le déchet plastique. Mais comment tu gagnes ta vie?
Ok, bonne question. comme tu peux deviner, je n'ai pas d'emploi normal. J'ai juste fait ça parce que c'est important et c'est sur mon cœur. Et miracle par miracle, chaque jour, les choses viennent à moi qu'on a besoin. D'abord, j'ai dit avant que le guide et tout le travail qu'on fait, c'est open source. C'est toutes des contributions des volontaires, des personnes qui résonnent avec ça et qui appuient et aident à passer et augmenter notre matériel. Tu vas voir online, sur YouTube, on a des vidéos fantastiques, des animations, des documentaires, de qu'est-ce qui passe. Toutes des volontaires, toutes des personnes qui ont aidé ça. Yeah. Normalement, un NGO doit payer des milliers de dollars pour ça. Ça juste vient. Mon motocyclette, c'est donné par quelqu'un. Tout mon équipement, c'est donné par quelqu'un. Yeah. Des places à rester, c'est donné par des personnes. C'est tout donné par l'univers chaque jour.
Yeah. Donc, quand on croit en ce qu'on fait, ça peut marcher.
Ça peut marcher, ça marche.
Est-ce que tu as une idée sur ton projet qui maintenant est en place depuis plusieurs années, le nombre de kilos de plastique que tu as réussi à ne pas jeter dans la nature, dans les océans, dans les mers? Parce que tout ce que je vois là, tout le plastique qui est là, c'est du plastique qui n'est pas dans la nature.
Exactement. Je suis très fier de ça. Quand je peux aller à un pays ou une place ou une communauté et sortir et savoir qu'il y a tellement de kilogrammes, de tonnes de plastique qui ne sont pas dans l'environnement, qui sont trappés dans ces eco-breaks.
Tu as une idée de chiffre de tonnes de plastique que tu as réussi à...
J'ai aucune idée maintenant avec les Philippines et comment c'est passé. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on séquestre le charbon en faisant des eco-breaks. D'abord, dans les écoles, on aussi enseigne ça, que la plastique, si c'était brûlé, ça va relever, ça va libérer des CO2. Et on peut calculer ça. D'abord, dans cette EcoBrick ici que j'ai dans mes mains, il y a un moitié kilogramme de plastique. Et si c'était brûlé, ça va libérer 3 fois sa pèse dans CO2. Et d'abord, on a maintenant trappé ça dans cette brique et on peut être fier de ça.
Ouais, c'est comme un puits à carbone. Donc la brique, la bouteille va récupérer le carbone qui ne va pas être libéré dans l'atmosphère. Et donc, c'est aussi un moyen de lutter contre ces réchauffements climatiques dont on parle beaucoup aujourd'hui.
Exactement. Et une manière aussi d'élever la conscience des jeunes sur ce thème-là dans les écoles avec leur travail très pratique de mettre un petit plastique dans la bouteille. Ils décontribuent à la global warming.
Russell, ce que tu fais, c'est génial. Il y a un site internet pour pouvoir mieux comprendre tes projets, les découvrir. Donc, tu parlais d'open source, c'est complètement libre. On peut très bien s'approprier le projet. On peut très bien essayer de le développer de son propre côté. On peut très bien y contribuer, y participer. EcoBrick, donc pour trouver tous les liens, toutes les informations, tout ce qu'on a besoin pour soit te contacter, soit pour découvrir, soit pour mieux comprendre, on va sur internet, on tape quoi?
Yeah, c'est ça, ecobricks.org. ecobricks.org.
EcoBricks, donc E-C-O, Bricks, B-R-I-C-K-S, je l'aurais dit en français, .org, pour arriver sur ton site et puis un petit peu prendre conscience de tout ce qui a déjà été fait, des actions mises en place. Merci à toi, Russell, ce que tu fais, c'est génial. Merci à toi.
Ok, merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.